Les combats autour de l'aéroport se poursuivent et depuis hier, c'est l'incendie d'un réservoir de carburant qui inquiète les autorités et la population. Christophe Dreveil.
Oui, comme le symbole d'un pays qui part en flamme depuis 3 ans, l'immense réservoir de carburant situé sur la route de l'aéroport de Tripoli est en feu. Ce réservoir contient 6 millions de litres de carburant et les pompiers qui n'ont pu circonscrire le sinistre sont obligés maintenant de faire évacuer les habitants de toute la zone. Le réservoir est en effet situé au même endroit que les stocks de gaz ménager. Une propagation des flammes entraînerait une gigantesque explosion avec des dégâts dans un rayon de 3 à 5 kilomètres. Les autorités en appellent une nouvelle fois à une aide internationale. La zone de l'aéroport est devenue un véritable cauchemar après le début des combats entre milices rivales il y a 2 semaines. Ils ont fait au total 100 de morts et détruit infrastructures et avions. Le gouvernement libyen a de nouveau appelé ce matin à l'arrêt des combats, mettant en garde contre un effondrement de l'État. Ces nouveaux troubles poussent en tout cas les pays occidentaux à appeler leurs ressortissants à quitter le pays. Un appel lancé par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne notamment. De leur côté, les États-Unis ont évacué leur personnel diplomatique, l'ambassade américaine étant située sur la route menant à l'aéroport de Tripoli. Des départs qui risquent de paralyser davantage le pays. Le ministère de la Santé dit ainsi redouter une pénurie de personnel médical. Le chaos qui menace à nouveau alors que les combats continuent par ailleurs à Benghazi dans l'Est. Ils ont fait 38 morts ces dernières 48 heures. Benghazi, où le nouveau parlement élu est censé s'installer le 4 août prochain, c'est-à-dire dans 1 semaine à peine.
Et le ministère libyen de l'Intérieur a tenu à démentir la mort de 23 Égyptiens. Hier, certains médias locaux et la diplomatie au Caire avaient annoncé 23 victimes égyptiennes de tirs de roquettes s'étant abattues sur leur domicile à Tripoli. Ces informations sont totalement erronées, assure donc ce midi le porte-parole libyen, indiquant toutefois qu'un Égyptien a bien été blessé dans ce raid. Du côté de l'Irak, on parle de 17 morts, dont au moins 3 civils, dans une opération de l'armée ce matin sur des positions djihadistes à 60 kilomètres au sud-ouest de la capitale Bagdad. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur se sont dit, eux, prêts à favoriser l'accueil au titre d'asile des chrétiens d'Irak victimes de persécutions. En Syrie, l'Aïd el-Fitr s'annonce à l'image de ces dernières années terriblement sanglantes. Dans la nuit, l'armée du régime a bombardé des quartiers d'Alep. Au moins 9 civils, dont 3 enfants, ont été tués dans le quartier rebelle de Shahar, dans l'est de cette localité. Une autre bataille dont le bilan est encore très flou, c'est celle que livrent les insurgés islamistes de la secte Boko Haram aux autorités du Nigeria et à ses voisins comme le Cameroun, où hier, dans l'extrême nord-est du pays, le groupe radical a attaqué une fête chez un sultan local, faisant 15 morts et prenant en otage pendant quelques heures 12 de personnes libérées depuis. Le Cameroun, mais aussi le Niger, la Centrafrique, le Tchad, qui souhaitent s'associer au Nigeria pour créer une force internationale afin de s'attaquer à cette menace Boko Haram. Mais une force sous quelle forme ? Élément de réponse avec l'universitaire et spécialiste de l'Afrique, Christian Bouquet.
Incontestablement, il faudra que cette force soit multinationale. Donc c'est un premier pas, c'est un point positif, dans la mesure où les États riverains du lac Tchad en particulier sont tous concernés et les États riverains frontaliers du Nigeria sont concernés. Donc il faut qu'ils se mettent ensemble et tout, et qu'ils acceptent de travailler ensemble, notamment le Nigeria et le Cameroun. Maintenant, ça ne suffit pas de se mettre ensemble. Il faut aussi avoir à l'intérieur de ça les compétences. Les compétences, ils ne les ont pas, parce que les compétences, c'est essentiellement dans le domaine du renseignement qu'il les faut. Et comme jusqu'à présent, ils ont montré précisément leur impéritie dans ce domaine, et plus encore, la corruption et probablement les complicités à l'intérieur de l'appareil d'État nigérian, il y a encore du chemin à parcourir.
Et Boko Haram a également revendiqué ce matin un attentat suicide dans la ville de Kano, tout près d'un attroupement de femmes qui attendaient pour acheter du carburant. On évoque 3 morts pour le moment, un bilan qui évidemment pourrait s'aggraver. Hier, une attaque contre une église de la ville avait fait 5 morts. Les festivités de l'Aïd el-Fitr ont du coup été annulées dans cette métropole de Kano. Pas de rassemblement permis, des manifestations très limitées également du côté du Libéria et de la Sierra Leone, où l'on craint là-bas le virus Ebola. Un premier décès dû à la fièvre hémorragique a touché la capitale de la Sierra Leone, Freetown, hier. 2 médecins, un Américain et Libérien, ont par ailleurs été contaminés. Les drapeaux sont en berne en France où pendant 3 jours, les autorités ont souhaité ce geste symbolique pour les victimes du vol d'Air Algérie qui s'est écrasé jeudi dernier au Mali. Sur place à Gossy, les enquêteurs ont commencé à collecter des éléments pour identifier les victimes notamment. Tandis qu'à Paris, les boîtes noires sont arrivées et François Hollande faisait une fois de plus le point sur la situation avec son équipe gouvernementale. Paris, où nous retrouvons Robert Bussière.
François Hollande a présidé une nouvelle réunion à l'Élysée ce matin avec les principaux ministres concernés par le dossier de l'avion d'Air Algérie. C'était la quatrième réunion du genre depuis le crash de l'appareil jeudi dernier. Réunion de crise pour les trois premières, réunion de suivi pour celle-ci. Il s'agissait avant tout d'échanger des informations, de faire le point de l'enquête. Le point de l'accueil des familles également après la rencontre organisée samedi dernier au ministère des Affaires étrangères, durant laquelle elles avaient pu poser toutes les questions qu'elles souhaitaient sur le rapatriement des corps et l'état des investigations. François Hollande ne s'est pas exprimé ce matin, contrairement à ce qu'il avait fait à l'issue des réunions précédentes. C'est Laurent Fabius qui donnera à la presse les dernières informations dont on dispose cet après-midi au Quai d'Orsay. Le chef de l'État français n'en reste pas moins en première ligne. Il a annulé, on le sait, le déplacement qu'il devait effectuer dans l'océan Indien pour rester à Paris. Et il se tient informé heure par heure des derniers développements sur le terrain, du déploiement des équipes et des recherches effectuées sur les lieux du crash. On attend notamment beaucoup du retour en France des deux boîtes noires de l'appareil. L'analyse des enregistrements des paramètres de vol et des conversations dans le cockpit devrait fournir des éléments précieux aux spécialistes du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, sur les circonstances du drame. Et en attendant, les drapeaux ont été mis en berne ce matin sur l'ensemble du territoire français et le resteront trois jours en signe de deuil et en hommage à toutes les victimes de la catastrophe. À Paris, Robert Bussière pour Médias.
L'enquête sur l'autre crash, celui du MH17, le vol du Boeing de la Malaysian Airlines dans l'est de l'Ukraine, se poursuit également dans la plus grande difficulté. Forcément, selon les autorités ukrainiennes ce matin, les premiers éléments évoquent une décompression de l'appareil suite à une forte explosion. Le bureau néerlandais n'a pas pu confirmer, d'autant que ses agents au sol, tout comme les Australiens, ne sont pas parvenus à accéder sur la zone de l'accident. Les combats s'y déroulent actuellement et l'armée ukrainienne semble avoir repris le contrôle d'une bonne partie de la zone du crash tenu jusque-là par les séparatistes pro-russes. Et puis il y a ce bilan des Nations Unies. L'ONU dénonce l'utilisation d'armes lourdes dans des zones civiles par les deux parties et fait état de plus de 1100 morts dans les combats depuis la mi-avril. La Russie, condamnée ce matin par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, a versé 50 milliards de dollars d'indemnités aux actionnaires de la compagnie pétrolière Yukos. Moscou est reconnu coupable de les avoir expropriés après 10 ans de procédure. L'actionnaire, la victime, c'est la holding GML, celle de Mikhail Khodorkovsky, ancien oligarque critiqué par le Kremlin, emprisonné pendant 10 ans et gracié en décembre dernier. Il gisait dans le port du Giglio, rappel incessant de l'inconscience de son capitaine qui avait ordonné à son équipage de s'approcher au plus près des côtes pour faire plaisir aux touristes et provoquant la mort de 32 de ses passagers, le Costa Concordia. En quelques jours, est finalement arrivé à Gênes, en Italie, devenant un défi technologique et écologique relevé, fièrement, comme toujours, par les Italiens. Robert Laroche nous appelle de Rome.
Le voyage s'est achevé. Après 4 journées et presque 400 km de navigation, l'épave du Costa Concordia est amarrée depuis dimanche après-midi dans le port industriel de Gênes, pas trop loin d'ailleurs des chantiers navals où le géant de la mer avait été construit il y a 9 ans, accueilli entre autres par le président du conseil Matteo Renzi, venu saluer le travail des sauveteurs et réaffirmer que, avec le Costa Concordia, l'Italie entière aussi peut tourner la page et réussir la mission impossible du changement. Parmi les autorités, c'était en tout cas la satisfaction de mission accomplie, force de volonté qui a permis d'abord de redresser l'immense paquebot, puis de le transporter jusqu'ici sans la moindre pollution, ce que certains ont pu craindre jusqu'au bout. Référence appuyée du ministre italien de l'Environnement à sa collègue française qui se disait inquiète pour les côtes corses. Reste maintenant à compléter le travail, soit le démantèlement complet de l'épave, ce qui prendra, selon les estimations, environ un an et demi. Une aubaine pour la ville, quelques 700 personnes devraient trouver un emploi, ce qui a donné des idées à Gênes, devenir un pôle spécialisé en démantèlement de vieux navires. Robert Laroche, à Rome, pour Médias.
Et puis un petit mot de sport pour terminer avec le mercato footballistique. On continue. Et le champion d'Espagne, l'Atlético Madrid, s'est offert l'attaquant français Antoine Griezmann de la Real Sociedad, qui dit quitte donc le club basque après y avoir inscrit 53 buts. Les clauses du contrat ne sont pas encore connues. On parle d'un montant approchant les 30 millions d'euros. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Médias.
Merci à vous, Julie Rosselin, midi 45 sur Médias. Dans un instant, on va retrouver Robert Bussière pour reparler donc de ce deuil en France après le crash du vol d'Air Algérie dans le nord du Mali. On le retrouvera donc après une petite pause.
بحركه بسيطه يمكن نطفي او نشعل الضوء. اذا علاش نخرج ونخلي الضوء شاعل؟ نطفي التلفزيون ولكن الريسبتور الموتور الدي في دي
بحركة بسيطة نطفيهم من الساروت بنهار نطفي الضوء ونحل يدخل الضوء لفابور أمور بسيطة تنقص من استهلاك ديال الضوء ومن ثمن الفاتورة.
Le fait marquant depuis Paris, c'est avec Robert Buissière. François Hollande a demandé qu'à partir d'aujourd'hui, que les drapeaux soient mis en berne pendant 3 jours en France en signe de deuil national. Et ce, après le crash du vol AH-57, Robert.
François Hollande a demandé qu'à partir d'aujourd'hui, les drapeaux soient mis en berne pendant 3 jours en France en signe de deuil national après le crash du vol AH-5017. Et cette décision rarissime reflète bien l'implication toute particulière du chef de l'État dans cette affaire, implication presque personnelle, pourrait-on dire, par cette initiative, non seulement rare, mais aussi éminemment symbolique. Le président continue en effet de se tenir en première ligne dans cette actualité dramatique, ce qu'il n'a cessé de faire en réalité depuis le début, depuis la disparition jeudi dernier de l'avion d'Air Algérie au-dessus du Mali. Depuis donc, il a multiplié les réunions de crise à l'Élysée, devenues quasi quotidiennes, avec tous les ministres concernés, intérieur, défense, affaires étrangères, transport. Sans oublier bien sûr le premier d'entre eux, Manuel Valls. Il a annulé en urgence un déplacement de 3 jours dans l'océan Indien, pourtant programmé de longue date. Il a multiplié les déclarations publiques. Samedi dernier, il a consacré l'essentiel de son après-midi à recevoir les familles des victimes françaises du crash, pas loin de 200 personnes au total, pour une séance d'information au Quai d'Orsay, au cours de laquelle elles ont pu poser toutes les questions qu'elles souhaitaient aux autorités militaires, diplomatiques et judiciaires qui avaient été conviées sur place. François Hollande jouant le rôle de Monsieur Loyal, micro en main, distribuant la parole aux uns et aux autres et appelant les intervenants à n'éluder aucune interrogation, assurant que toute la vérité serait faite, sans ménager les intérêts politiques ou industriels, quels qu'ils soient. À l'issue de cette séance de questions-réponses, François Hollande est encore allé à la rencontre de chacune des familles, les saluant, discutant avec elles, et le tout, il faut quand même le signaler, loin des micros et des caméras. Cela dit, pour spectaculaire qu'elle soit, cette implication du chef de l'État français n'est finalement pas si surprenante que cela. D'abord, ce sont les circonstances qui le placent en première ligne, explique-t-on dans son entourage. Le drame s'est produit dans une zone où l'armée française est très présente. Ce sont des militaires français qui ont retrouvé l'épave. L'enquête s'annonce particulièrement difficile et délicate. De même que le rapatriement des corps promis aux familles. Il a considéré dès le début que c'était à lui qu'il incombait d'annoncer la terrible nouvelle des décès. Et il était donc naturel qu'il aille à la rencontre des proches des victimes. Mais d'une manière générale, dit-on encore à l'Élysée, c'est le rôle d'un chef de l'État d'assurer la cohésion nationale dans des moments aussi dramatiques. C'est sa responsabilité et c'est son devoir, comme en témoigne d'ailleurs le consensus exceptionnel qui a salué cette séquence. Aucune critique, ni à droite, ni à gauche. L'heure est au recueillement et au rassemblement national, a déclaré Luc Châtel, le secrétaire général de l'UMP, par intérim. Il est des moments où la nation doit s'unir, a renchéri l'ancien Premier ministre François Fillon. Cela dit, en ces moments difficiles, François Hollande a peut-être aussi à l'esprit son premier été en tant que président, l'été 2012, où il avait été bien moins présent, malgré une actualité très lourde, là encore, avec la crise en Syrie et des plans sociaux à répétition, ce qui lui avait été vertement reproché. C'est d'ailleurs à cette époque qu'avait débuté, comme par hasard, sa dégringolade dans les sondages. À Paris, Robert Buissière pour Médias.
Médias, des reportages, des magazines, des points de vue et plein d'autres rendez-vous 24h sur 24 à Rabat 97.5.
Midi 49 sur Medi 1. Merci à vous de nous écouter. Très bonne journée en notre compagnie. Dans une dizaine de minutes, on refera le point sur les grands titres de l'actualité. Mais tout de suite, c'est la revue de presse avec Moncef Limi. Alors que le monde musulman fête la fin du Ramadan, Gaza est un champ de ruines et la Libye s'enfonce dans le chaos, Moncef.
في عيد الفطر المبارك الأرواح تزهق في غزة وفي ليبيا ليس وحده النزاع مع إسرائيل ما يجلب الدمار في غزة بل التناحر بين الإخوة الأعداء في ليبيا يزهق الأرواح ويهدد دولتهم بالانهيار ملفان يستأثران بعناوين كبريات الصحف العالمية أوباما يكثف ضغوطه على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار، عنوان يتصدر صحف عديدة. في لوموند، أوباما يستعجل إسرائيل وقفا لإطلاق النار فورا ودون شروط، وحماس تجدد إعلان وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، تعنون البيس وتقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض عرض حماس واتهمها بخرق وقف إطلاق النار. إسرائيل تستأنف قصفها لغزة، تعنون الواشنطن بوست. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد استمراره في استهداف المقاتلين الفلسطينيين رغم ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وتصاعد الضغوط الدولية من أجل إنهاء النزاع المسلح، تسجل الواشنطن بوست. بالنسبة للجنرال أنسايغا، فإن جون كيري والإدارة الأمريكية يرميان بثقلهما في نزاع الشرق الأوسط بعد أن باتت مصداقية واشنطن في الميزان. الصحيفة الألمانية الصادرة في بون تبرز أن تطورات الصراع بين إسرائيل وحركة حماس يظهر أن حسن النوايا غير كاف لإنجاح السلام. الهدنة تفضح إجرام الاحتلال والشهداء يتخطون الألف، تعنون الخليج الإماراتية، وتقول إن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في قطاع غزة كشفت الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تعرض له حي الشجاعية شرق غزة جراء القصف الإسرائيلي. غزة ليست سوى غابة من الأنقاض، تعنون الأسوار، وتصف هول ما تعرض له القطاع جراء القصف الإسرائيلي. كان ذلك في لمحة قصيرة لوقف إطلاق النار الذي تعرض للانهيار من جديد وبسرعة، تسجل الصحيفة البلجيكية. تصاعد حدة القتال في ليبيا والدول الغربية تدعو رعاياها للمغادرة، تعنون الغارديان، التي اهتمت بالتطورات الدراماتيكية التي تشهدها ليبيا. تصاعد أعمال العنف في العاصمة طرابلس وبنغازي تخلف عشرات القتلى، والعواصم الغربية تستعجل رعاياها لمغادرة ليبيا، في مؤشر على يأس المجتمع الدولي من جنوح الأطراف المتنازعة للحل السلمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة، تسجل الصحيفة البريطانية. لاستامبا التي تصدرها موضوع دعوة الرعايا الإيطاليين لمغادرة المستعمرة السابقة ليبيا تصف الأجواء المتوترة في البلاد جراء الصراع المسلح بين الميليشيات المتناحرة حول مطار طرابلس ومناطق أخرى. الصحيفة الإيطالية تبرز أن الأسرة الدولية وفي مقدمتها إيطاليا ما بدأت تؤكد التزامها بدعم عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا المضطربة. نوايا تسوريشا تسايتونغ تقول إن رئيس الوزراء الليبي أقر للمرة الأولى بعجز الدولة في مواجهة الميليشيات المتناحرة، محذرا من انهيار كامل للدولة، الأمر الذي يلقي بظلال من الشكوك حول فرص الانتقال الديمقراطي عبر التئام البرلمان المنتخب والذي حقق فيه الليبراليون تقدما على حساب الإسلاميين. غدا يتجدد لقاؤنا.
ميديا au plus près de vous à Rabat 97.5.
Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's going. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance.
asked how I felt, and she said I know how to help. Get over Alice. She said now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared.